des sciences. Donc, je suis très intriguée par le titre de Monsieur Gauthier qui s'intitule « Confond réalité et connaissance, le cas Bruno Latour ». On va bien sûr rester avec vous pour écouter en quoi Bruno Latour est un cas. Donc je laisse Monsieur, je vous remercie beaucoup Monsieur d'être parmi nous. On est toujours très heureux d'accueillir nos amis du Québec. Et donc je laisse Monsieur Sabourin de l'Université de Poitiers vous présenter à notre public. Merci Monsieur.
C'est moi qui vous remercie. Yes. Écoutez, je vais vous dire juste deux, trois mots
dans
sur... Ah, mais d'accord. Oui. Juste deux, trois mots sur donc, le conférencier. Il s'agit donc du professeur Gilles Gauthier de l'université... Alors, je dois dire professeur titulaire ?
Non.
De l'université Laval à Québec. Gilles Gauthier est en fait chez nous à la faculté des sciences de Poitiers pour une dizaine de jours. Et en fait, le but de sa mission, c'est de pouvoir venir à la rencontre de nos étudiants pour leur parler un peu d'argumentaire, d'argumentation. Et je crois que cette notion d'argumentaire est pour nous, scientifiques, quelque chose d'extrêmement fondamental. C'est ce qu'on emploie tous les jours dans notre activité de scientifique. Donc voilà, ben, il va ce soir nous aborder un certain nombre de problèmes, je crois, qui sont vraiment fondamentaux, qui tournent autour de la connaissance.
Merci beaucoup. Merci, madame, de votre accueil. Je ne vous parlerai pas d'argumentation ce soir. Le titre de la conférence l'indique assez bien. J'aimerais vous entretenir de Bruno Latour pour le critiquer. Sans doute que certains d'entre vous connaissez Bruno Latour et ses travaux. J'ai tout lieu de penser, cependant, que ce n'est pas le cas de tous. J'ai posé la question au cours des derniers jours et j'ai pu réaliser qu'il était méconnu d'un grand nombre de personnes à qui je posais précisément la question de savoir s'ils le connaissaient. Cependant, Bruno Latour est très certainement l'un des intellectuels français contemporains les plus reconnus, je dirais, dans le monde universitaire, en particulier en sciences humaines et sociales, en raison de ses enquêtes sociologiques sur le terrain portant sur la science. Alors, la vie de laboratoire, la science en action, l'espoir de Pandore, les principaux ouvrages de Latour font autorité en sociologie, en anthropologie des sciences, mais aussi en philosophie, en raison de la nature ou de la teneur des thèses qu'il avance. Il est sans doute, par ailleurs, peut-être davantage connu dans le monde anglo-saxon, dans la mesure où il publie d'abord ses ouvrages. C'est un des rares Français que je connais qui procède de la sorte. Il publie d'abord ses ouvrages en anglais. Ils sont après coup traduits, et pas par lui. Dans certains cas, il revise la traduction, mais pas toujours. Ce qui fait que cette notoriété est au moins aussi importante dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Il se présente lui-même comme une figure de proue et reconnu comme une figure de proue de ce qui est qualifié comme la nouvelle anthropologie des sciences. Alors, une des raisons de sa notoriété, c'est l'audace des thèses ou de certaines des thèses assez spectaculaires qu'il avance. Et c'est sur une de ces thèses, une des thèses centrales de sa production scientifique, aussi une des plus controversées que je voudrais m'attarder ce soir ou dont je voudrais vous entretenir. Alors, cette thèse, c'est la suivante. Latour soutient que la réalité dont traite la science est totalement fabriquée par elle, que les objets de la science n'existent pas avant qu'elle, la science, les crée. Par commodité, un peu pour la suite de l'exposé, à quelques reprises, je donnerai à cette thèse le nom suivant, qui n'est pas celui que lui donne Latour, c'est moi, thèse de l'inexistence préalable des objets scientifiques. Inexistence préalable des objets scientifiques, à entendre dans le sens que je viens d'indiquer. La thèse de Latour n'est pas, comme on a coutume de le penser depuis Bachelard, que la science est une construction, que la science est elle-même une construction, qu'elle procède à un découpage de la réalité, qu'elle constitue des objets formels de recherche qui sont déterminés par les théories qu'on y développe. Plus radicalement, ce que Latour avance, c'est que les objets scientifiques, les objets sur lesquels porte la science, n'avaient aucune existence antérieures à leur appropriation, ou dit plus justement, à leur établissement par l'entreprise scientifique. Par exemple, la Tour affirme que les ferments lactiques n'existaient pas avant Pasteur. De même, traitant de la question de la mort de Ramsès II, la Tour soutient que le bacille de la tuberculose qui a entraîné la mort de Ramsès II n'a pas été réel, n'a acquis de réalité véritable qu'avec Koch en 1882. Et conséquemment, qu'il ne fait pas sens de dire purement et simplement que Ramsès II est mort de la tuberculose, comme on a pu l'établir au moment où on a fait le transfert de la momie à l'Institut Pasteur en 1976. Vous allez voir pourquoi je prends la peine d'indiquer précisément les dates que je viens d'indiquer. La réponse que la Tour donne à la question, telle que lui-même la formule, ouvrez les guillemets, où se trouvaient donc les objets avant, la Tour lui-même met les guillemets à avant, avant donc que les savants les découvrent, où étaient donc les objets avant que les savants les découvrent? La réponse est nulle part, ils sont devenus réels seulement quand la science les a institués. Purement et simplement, les ferments lactiques n'existaient pas avant Pasteur et le bacille avant Koch. Cette idée apparaît aller tellement contre le sens commun, la Tour lui-même le reconnaît, qu'on peut légitimement se demander, que vous pouvez peut-être vous demander, si elle est véritablement formulée par la Tour ou ce n'est pas moi, ou si ce n'est pas moi qui le lis mal, l'interprète mal, afin d'indiquer que ce n'est pas le cas, que je ne l'interprète pas de travers, que la Tour défend bel et bien l'idée que les objets scientifiques n'ont pas d'existence pré-scientifique. Voici quelques citations. Mais enfin, les ferments existent-ils avant que Pasteur leur donnât forme? Pourrait s'exclamer avec un soupçon d'exaspération toute personne de bon sens. Et comment échapper à la réponse? Non, bien sûr, il n'existait pas avant sa venue. Réponse évidente et naturelle. Et cette autre citation, à certains égards encore plus explicite, la réponse de bon sens, mais elle n'a que l'apparence du bon sens, consiste à dire que les objets, bacilles ou ferments, étaient déjà là depuis des temps immémoriaux. La réponse la plus radicale, mais elle n'a que les apparences de la radicalité, consiste à dire que Ramsès II est bien tombé malade 3000 ans après sa mort. Ramsès II est bien tombé malade 3000 ans après sa mort. Avant Koch, le bacille n'a pas de réelle existence. Avant Pasteur, la bière ne fermente pas encore grâce au ferment. On pourrait aussi penser que la Tour s'exprime d'une façon manifestement excessive, mais que ce qu'il se trouve à distinguer un peu maladroitement, c'est la différence entre l'existence d'une chose et la découverte de cette chose. C'est d'ailleurs ainsi que souvent réagissent les gens quand on fait part de cette idée ou de cet ensemble d'idées de la Tour. J'ai expérimenté à plusieurs reprises la situation. On rapporte les propos de la Tour et les gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes ni en sciences, ni en histoire des sciences, ni en anthropologie des sciences, réagissent en disant « il voulait certainement dire qu'on a fini par découvrir les choses qui existaient déjà ». C'est peut-être ainsi, d'ailleurs, sans doute, que certains d'entre vous avaient pu réagir. Mais autre que ce serait là une platitude, ou en tout cas que la thèse de la Tour y perdrait tout intérêt, lui-même prend bien la peine de préciser que ce n'est pas cette banalité qu'il défend. La thèse à laquelle il s'en prend, c'est celle selon laquelle les objets étaient déjà là depuis des temps immémoriaux, hein, j'ai déjà fait cette citation, et, pour poursuivre la citation, que nos savants, c'est la thèse à laquelle il s'en prend, que nos savants les ont simplement tardivement découverts, qu'ils ont soulevé le voile derrière lequel ces petits êtres se cachaient. Ce que la Tour veut affirmer, c'est que les objets ne sont pas découverts, qu'ils n'existaient pas avant que la science les détermine. Il le précise encore en regard des exemples des ferments, en affirmant que s'il ne s'agissait que de signifier que nos représentations actuelles des micro-organismes datent du milieu du 19e siècle, cela ne poserait pas de problème. Pas plus d'ailleurs que, citation, « si nous voulions seulement signifier que les ferments évoluent tout le temps, comme les virus de la grippe ou du sida ». Autrement dit, La Tour ne se situe pas dans une logique de l'historicité des substances, mais comme il le précise lui-même, l'expression est de lui, mais plutôt dans une logique de leur constitution. Ce qu'il prétend bel et bien, c'est que la science rend existantes les choses qu'elle conforme. La thèse de la Tour est donc à prendre bel et bien au pied de la lettre. C'est une thèse aussi forte que celle dont j'ai rendu compte. Ce qu'elle pose, c'est que les ferments avant Pasteur, que le bacille avant Koch, n'existaient pas et que c'est le travail scientifique de Pasteur et de Koch qui les a rendus ces choses existantes. La Tour, évidemment, n'avance pas que cela est uniquement vrai des cas singuliers des ferments lactiques et du bacille de Koch. Ce ne sont là pour lui que des illustrations parmi d'autres de cette généralisation suivant laquelle l'existence n'advient aux choses dont traite la science qu'en raison même de cela que la science les considère. Que ces choses n'étaient pas réelles avant que la science les fasse apparaître. Avant que la science les fasse surgir. Cette thèse apparaît pousser à son plus haut degré l'idée de construction sociale de la réalité. Cette idée suivant laquelle toute réalité est socialement construite. Pas seulement la réalité sociale ou institutionnelle, mais l'ensemble de la réalité. Dans le cas de la Tour, non seulement la science serait construite, ce qui est une évidence, appartient à cette réalité sociale elle-même construite, mais son objet même, c'est-à-dire son champ d'application, ce sur quoi elle porte, tout cela ne serait pas donné, mais construit par la science au moment où elle aborde cette réalité. Instituée par le déploiement même de la science. Pour le dire, si vous voulez, de façon imagée, ce n'est pas l'expression de la Tour, c'est moi qui interprète sa thèse dans les termes qui suivent. La science ne procède pas à une mise au jour, mais à une mise au monde de la réalité. En cela, la Tour se pose comme un anti-Socrate, si vous voulez, qu'il critique d'ailleurs vertement, comme un anti-Socrate de la maïeutique. À l'écouter, nous ne découvrons pas ce que nous savions déjà sans le savoir et qui existait par soi-même, mais nous faisons advenir, à la fois pour nous et pour elle-même, la réalité qui n'était pas avant que la science la considère. Assez curieusement, cependant, quand il avance cette thèse, la Tour non seulement ne se réclame pas du constructivisme, ce qu'il faisait volontiers dans ses premiers travaux, en particulier les titres que j'ai évoqués au début de mon exposé, mais tout au contraire, il la présente, sa thèse, comme étant anti-constructiviste. Plus précisément, la Tour prétend se détourner du constructivisme social pour adopter un constructivisme non social. C'est que pour la Tour, c'est précisément parce qu'ils sont construits que les objets et événements de la science sont existants, qu'ils deviennent réels. Citation, « Le problème n'est pas qu'ils soient à la fois fabriqués et réels. C'est précisément parce qu'ils ont été artificiellement produits qu'ils acquièrent une complète autonomie vis-à-vis de toute forme de production, de construction ou de fabrication. » Le propos de la Tour n'est pas ici contradictoire, même s'il adore manier le paradoxe. En quelque sorte, pour la Tour, les objets scientifiques sont semblables à des choses, et l'énumération est de lui, à des choses comme les maisons, les automobiles, les paniers, les gobelets, bien qu'ils deviennent autonomes une fois créés, leur création même ou leur construction n'est pas, elle, indépendante des êtres humains. Pour la Tour, les objets scientifiques ne sont pas posés là avant l'humain, pas plus que les maisons, les automobiles, les paniers, les gobelets. Comme eux, leur existence dépend totalement de l'être humain. On doit comprendre, évidemment, que pour la Tour, la réalité n'est jamais posée là, mais, pour ainsi dire, se définit intrinsèquement par une relation conditionnelle à l'être humain. Je pense qu'il s'agit là du nucléus le plus important de la pensée latourienne, et j'y reviendrai tout à l'heure. Pour le moment, je voudrais faire état d'une autre considération développée par la Tour pour appuyer sa thèse de l'inexistence pré-scientifique des objets scientifiques. La Tour soutient que ce serait commettre un anachronisme, le péché cardinal de l'histoire, nous dit-il. Ce serait donc commettre un anachronisme que d'affirmer, sans autre forme de procès, que Pharaon est mort de la tuberculose, tout autant que de prétendre qu'il a été fauché d'une rafale de mitraillette ou qu'il est décédé du stress causé par un crash boursier. Pourquoi, demande-t-il, ce qui est vrai de la sulfateuse ou du crash ne l'est-il pas du bacille? On le voit, ce que Latour cherche à établir, c'est que le bacille ou encore les ferments lactiques n'ont pas un mode d'existence fondamentalement différent de celui des objets techniques ou même plus généralement des objets concrets, par définition construits. Je reviendrai aussi un peu plus loin sur cette identité ontologique. Aussi provocatrice et contre-intuitive que soient les idées de Latour sur l'existence des objets scientifiques, on aurait tort, je pense, de purement et simplement les ignorer. Incidemment, Latour se montre encore beaucoup plus extravagant en proposant de considérer que les non-humains, comme la fermentation, sont des actants de l'activité scientifique au même titre que les êtres humains, que les scientifiques. C'est en cela, d'ailleurs, précisément qu'il qualifie de non-social son constructivisme. Il s'en prend au qualificatif de social, dans construction sociale, constructivisme social, parce que ça réduit l'action scientifique, à ses yeux, aux seuls êtres humains. Il voudrait qu'on admette que les objets y jouent aussi un rôle. Latour en appelle également, autre extravagance, à la création d'un parlement des choses. Très sérieusement, il propose la constitution d'une seconde chambre du Sénat français, dont la fonction serait de représenter ces non-humains, plantes, animaux, écosystèmes, par l'entremise de scientifiques ou de naturalistes plus aptes que les politiques ou les moralistes à maîtriser les modes de représentation de ces choses. Les idées de Latour ont beau apparaître contre-intuitives et extravagantes, on aurait tort de ne lui opposer que de l'indifférence. Parce qu'il exerce aujourd'hui sur les sciences sociales un ascendant tel, une influence telle que l'ignorer équivaudrait à lui abandonner, à lui et aux autres penseurs du constructivisme, qu'ils soient social ou non social, ce champ de savoir, et à terme, à mon avis, cela reviendrait à dénier tout caractère scientifique à ces dites sciences humaines et sociales. Et Bruno Latour, et BL n'est pas BHL. Bruno Latour n'est pas Bernard-Henri Lévy. Ce n'est pas une vedette de la télévision ou du monde littéraire. On ne peut pas ne pas réagir minimalement à ces avancées. Si les scientifiques, en tant que scientifiques, peuvent n'en faire pas trop de cas, ceux qui réfléchissent à la science, ça peut être aussi les scientifiques, ne peuvent pas complètement laisser porter. Et puis, il s'agit là sans doute de la considération la plus fondamentale. Il faut réagir à Latour parce que les débats philosophiques comme celui qu'il ravive ont une certaine importance. Une importance certaine. La philo constitue une quête, un questionnement aussi légitime que la science et ceux qui s'intéressent à la science. Encore une fois, ça peut être les scientifiques eux-mêmes, devraient s'intéresser à Latour dans la mesure où c'est la science elle-même qui suscite des questions philosophiques dont il traite à sa manière. Cependant, la réaction à Latour fait problème. On ne sait pas trop quelle posture adopter face à ses propositions. Et il y a à cela un certain nombre de raisons. D'abord, ainsi que j'ai tenté de le suggérer tout à l'heure, parce qu'elles ne sont pas toujours faciles à saisir. Entre autres choses, Latour ne se donne pas très clairement à interpréter en raison de son style d'écriture très particulier, tout à fait caractéristique. Son écriture est vivante, colorée, scintillante, parfois même tout à fait flamboyante. Elle donne du plaisir, lire du Latour donne du plaisir, même quand cela suscite plus d'opposition que d'appropriation. Si vous voulez, ça se lit à la façon presque d'un roman policier très imaginatif. Ses ouvrages sont construits autour d'énigmes, les ferments, dont il traite en mettant en scène des personnages, pasteurs, et en décrivant des situations pleines de rebondissements. Pour expliquer la création des ferments par Pasteur, par exemple, il met en cause à de nombreuses reprises les relations de Pasteur avec un certain nombre d'autres intervenants, l'Académie ou l'Institut. Aussi, Latour fait un usage abondant de schémas et de dessins, de métaphores dont on se demande parfois s'il ne les entend pas littéralement, et aussi de néologismes, à ce point qu'il doit adjoindre à certains de ses ouvrages un glossaire pour qu'on puisse bien comprendre le sens des expressions qu'il crée. Je ne vous donne qu'un seul exemple. à partir de faits, F-A-I-T, c'est sans doute un des exemples les plus connus, à partir donc de faits, F-A-I-T, et de fétiche, F-E-T-I-C-H-E, il crée fétiche, F-A-I-T-I-C-H-E, pour cristalliser en quelque sorte, ou mieux incarner, les idées comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Comme c'est souvent le cas, ce que Latour gagne en style, il le perd en justesse de la pensée. C'est Valéry qui disait « Il est 100 fois plus facile d'écrire une belle chose que d'écrire une chose précise. » Et Latour, en écrivant de belles choses, souvent tombe dans l'imprécision. Il faut en quelque sorte travailler assez dur pour, en lisant Latour, finir par bien comprendre, bien isoler ce qu'il veut dire. Mais au-delà du flou de la pensée de Latour, il y a malaise à y réagir parce que cette réaction, si elle se voulait frontale et exhaustive, exigerait une mobilisation théorique extrêmement lourde et complexe. Pour le dire sommairement, afin de s'opposer à sa thèse suivant laquelle les objets scientifiques n'existent pas avant que la science les constitue, il faudrait établir qu'au moins certains de ces objets ont une réalité indépendante. Si cela apparaît aller de soi pour le sens commun, il faudrait néanmoins le fonder théoriquement de façon convaincante. C'est une affaire différente de le démontrer que de l'admettre intuitivement. Il semble y avoir aujourd'hui consensus chez les philosophes pour considérer que le célèbre argument de Moore n'est pas à cet égard probant. Pour preuve de l'existence indépendante d'un monde, du monde, Moore agitait les deux mains. Fournir une réponse plus substantielle, cela demanderait un appareillage sophistiqué un peu plus développé. La question de la réalité a un héritage philosophique tellement lointain et tellement écrasant que seulement tenir compte de son histoire demanderait beaucoup plus de temps et d'énergie, probablement plus de temps et d'énergie que ceux que Latour déploie pour faire ses affirmations. D'ailleurs, certains philosophes, par exemple, John Searle, soutiennent qu'il n'est pas possible de fournir une telle preuve de l'existence du monde extérieur. Certains philosophes qui sont néanmoins réalistes, qui pensent donc que le monde extérieur existe, admettent qu'il est difficile, sinon impossible, de fournir une telle preuve ou de développer une telle démonstration et soutiennent plutôt que l'existence d'une réalité indépendante doit être vue comme une présupposition, une condition de possibilité d'intelligibilité de l'action humaine, y compris de l'action scientifique. En lieu et place de tenter de m'opposer directement à Latour, c'est-à-dire de faire valoir des idées contraires, frontalement contraires aux siennes, j'adopterai une stratégie plus indirecte, plus détournée, en essayant de faire voir l'inconsistance, ou plutôt une certaine forme d'incohérence interne dans sa pensée. Pour ce faire, je voudrais rendre compte du principal argument qu'on a jusqu'ici présenté à l'encontre de sa thèse et la réplique de Latour à cet argument. Mon propos n'est pas de trancher le débat entre l'argument et la réplique de Latour, mais de mettre en lumière un trait de la riposte de Latour qui, à mon avis, exerce un effet boomerang désastreux eu égard au motif central de son entreprise. Le contre-argument le plus communément déployé contre la thèse latourienne que les objets scientifiques n'ont pas d'existence préscientifique, c'est l'argument de la causalité rétroactive. Si on dit que le bacille n'existait pas avant Koch, comment comprendre que la tuberculose ait causé la mort de Pharaon il y a plus de 3000 ans? La causalité à rebours est d'ailleurs un des principaux arguments développés contre le constructivisme, qu'il soit social ou non social. Si la science fait apparaître ces objets, qui donc n'existaient pas avant elle, comment rendre compte de l'efficience antérieure de ces mêmes objets? Latour voit et admet très clairement la difficulté. Dans un propos de lui que j'ai déjà cité, quand il assimile le bacille aux anachronismes de la mitraillette et du crash boursier, il précise « Faute de machine à remonter le temps, on ne peut pas rétroagir sur le passé, une invention du présent. L'histoire irréversible ignore la causalité rétrospective. » Latour anticipe donc en quelque sorte l'argument et propose comme solution au problème de la causalité à rebours une solution ingénieuse, tout aussi spectaculaire que sa thèse de l'inexistence pré-scientifique des objets scientifiques. Cette solution, pas très aisée à saisir correctement au premier abord, consiste à proposer une conception du temps bidimensionnelle comme celle de l'espace. Pour Latour, le temps doit être compris comme se déployant sur deux axes. Et c'est ici que le tableau va m'être utile. Ce que Latour nous dit, c'est...
Bête.
On va s'arranger. Je verrai. Le temps, nous dit Latour, ne doit pas être réduit à sa seule composante chronologique, à son seul déroulement linéaire. Alors, en quelque sorte, il admet la dimension linéaire, mais refuse de réduire le temps à cette seule dimension linéaire. La dimension linéaire est celle qu'on peut poser sur l'axe horizontal. Alors, à cette dimension qui, nous dit-il, égrène la série des nombres entiers, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, doit être ajoutée une seconde dimension sédimentaire qu'il place sur l'axe vertical. Suivant cette seconde dimension, une année donnée peut être envisagée non pas comme un point, comme c'est le cas sur l'axe horizontal de la dimension chronologique, mais plutôt comme une colonne. Le temps, dans la dimension sédimentaire, peut être représenté par une colonne. Une colonne dans laquelle viennent se superposer les sédiments qu'ajoutent à l'année considérée les descriptions qu'en font les années subséquentes de la dimension linéaire. On voit pourquoi il l'appelle dimension sédimentaire. Hein, cette dimension du temps sédimentaire serait constituée des couches, il emploie le terme, dans lesquelles viennent se superposer donc les sédiments qu'ajoutent à l'année considérée les descriptions qu'ont les années subséquentes de la dimension linéaire. Ainsi, nous dit Latour, chaque année de la dimension chronologique, linéaire, modifie toutes celles qui l'ont précédée en dimension sédimentaire et, selon les progrès des sciences, dote les années passées de traits plus ou moins nouveaux. Pour le dire relativement à une année passée, faire la même affirmation, mais cette fois-ci du point de vue de l'année passée, d'une année qui est déjà passée, elle est modifiée après qu'elle se soit écoulée, dans la dimension sédimentaire, par toutes celles qui lui succèdent dans la dimension chronologique. Ainsi, nous dit Latour, l'an moins 1000, l'année approximative de la mort de Pharaon, l'an moins 1000 se compose d'un Pharaon mort de cause inconnue, et à partir de 1976, moment où on a fait venir la momie à l'Institut Pasteur, d'un pharaon mort de cause parfaitement connue. Toutes les années moins 1000 produites à partir de 1976 vont comporter ce nouveau trait, un Ramsès dont la bouche était remplie de bacilles de coq. Chacune des années, alors pour le faire relativement... Excusez-moi. Là, il n'y a pas de problème. Alors, imaginez sur la dimension sédimentaire l'an moins 1000. Moins 1000 de l'an moins 1000, un pharaon mort de cause inconnue. L'an moins 1000 de l'an 1976, un pharaon mort de cause parfaitement connue, la tuberculose. Et évidemment, cette sédimentation va rester pour les années qui vont être ultérieures, subséquentes, à 1976. On peut comprendre que c'est rendu possible à cause de 1882, où on invente le bacille de Koch. À ses dires, donc, au dire de Latour, concevoir de la sorte des déplacements dans le temps, semblables à des déplacements dans l'espace, c'est-à-dire sur les deux axes, illustre à la fois qu'il est inexact de dire purement et simplement, sans autre forme de procès, c'est l'expression de Latour, que Ramsès II est mort de la tuberculose du fait que le bacille n'existait pas avant Koch et que cette vue des choses n'entraîne pas l'admission d'une causalité rétroactive. Citation. On ne peut jamais remonter en arrière sans commettre un grave anachronisme. De ce point de vue, le bacille de Koch ne peut pas plus remonter en arrière que la mitrailleuse ou que le crash boursier. Pourtant, si nous disons que Ramsès II est tombé malade 3000 ans après sa mort, nous ne nous obligeons pas à dire que nous inventons de toutes pièces à partir du présent notre passé. Nous ne faisons que tracer une connexion nouvelle entre Koch, le Caire et Paris. La relation entre la mort de Ramsès II et la tuberculose doit être vue en tenant compte de la distinction entre diverses années moins 1000, constituées des couches de la dimension sédimentaire du temps déposée, le terme est de Latour, par les différentes années de la dimension linéaire du temps. En l'an moins 1000 de l'an moins 1000, Ramsès II n'est pas mort de la tuberculose. En l'an moins 1000 de l'an 1976, Ramsès II est mort, devient mort de la tuberculose. Attribution qui peut être faite parce que le bacille devient existant par Koch à partir de 1882. Quoi penser de cette réplique de Latour à l'argument de la causalité à rebours? Comment considérer sa conception du temps et les implications qu'il en tire? Certes, on est habitué depuis Einstein à considérer que le temps n'est pas absolu et indépendant. Mais la façon dont Latour le présente, le temps, ou le conçoit par ses deux dimensions, me semble comporter deux incongruités. La première est qu'il est curieux qu'il y ait plusieurs années différentes de la même année. Dans l'exemple de l'année de la mort de Pharaon, toutes les années suivant l'an moins 1000, dont ressortent l'an moins 1000 de l'an moins 1000, l'an moins 1000 de l'an 1976, et l'an moins 1000, entre les deux, de l'année 1882. Curieux de considérer qu'il y a plusieurs années de la même année. En second lieu, et lié à cela, il apparaît étrange de dire qu'une année est modifiée par toutes celles qui la suivent. En quelque sorte qu'après s'être écoulée, elle continue sans cesse de se transformer. Autrement dit, il y aurait, à suivre Latour, un temps du temps. Le temps serait lui-même historique ou temporel, au sens où chacune de ces unités vivrait un écoulement temporel. En rapport avec ces bizarreries, le propos de Latour comporte un vice de raisonnement, à mon avis, un vice de raisonnement déterminant. Il confond en fait deux choses tout à fait différentes. Le fait que les années qui suivent ajoutent quelque chose à une année donnée et le fait que celle-ci en soit elle-même transformée. Autrement dit, à tort, Latour identifie l'ajout à une modification. Latour a parfaitement raison d'affirmer que le temps qui passe, citation, selon le progrès des sciences, dote les années passées de traits plus ou moins nouveaux. On peut aussi admettre avec lui que des sédiments neufs viennent s'additionner au sujet d'une année du fait de descriptions nouvelles qu'en donnent les années subséquentes. Finalement, nous pouvons convenir avec Latour que l'examen de la momie de Ramsès II à l'Institut Pasteur en 1976, comme il l'écrit, a tracé une connexion nouvelle entre Koch, le Caire et Paris. Tout cela est parfaitement raisonnable. En fait, ça relève plutôt de l'évidence. En tout cas, ce sont des constats qui me semblent assez près du sens commun. Mais ce que Latour se trouve à signaler quand il fait ces constats, c'est pas tout à fait ce que lui-même pose. Pour prendre l'exemple de Ramsès II, simplement que la compréhension de ce qui est arrivé au pharaon s'est transformée au fur et à mesure que le temps passait, selon le progrès des sciences. Autrement dit, ce qu'ajoutent les années qui la suivent à une année donnée, ce sont de nouveaux savoirs. On ne pouvait pas, jusqu'en 1882, même concevoir que Ramsès II est mort de la tuberculose, parce que c'est seulement à cette date que Koch a mis au jour le bacille. On ne pouvait pas, avant 1976, diagnostiquer que Pharaon est mort de tuberculose, parce que c'est seulement cette année-là qu'on a pu établir que, comme l'écrit Latour, sa bouche était remplie de bacille de Koch. La dimension sédimentaire du temps que Latour met en évidence est relative strictement à la connaissance. Dans son exemple, à la connaissance de la mort de Ramsès II en l'an moins 1000. Cette connaissance nouvelle qu'on peut produire a posteriori ne vient pas non plus modifier l'année considérée en elle-même. Les traits nouveaux dont ce savoir dote l'année, les descriptions qu'il lui ajoute, les connexions qu'elles établissent avec l'année donnée, ne sont des transformations que de notre compréhension de ce qui s'est passé cette année-là, pas de ce qui s'est passé cette année-là. L'année moins 1000, en tant que telle, n'est pas changée par ce qu'on sait de plus à son sujet une fois qu'elle est passée. Ce que Latour considère l'année moins 1000 de l'an 1976 n'est pas du tout l'année moins 1000 de 1976. C'est l'année 1976 telle que, pour ainsi dire, elle connaît l'année moins 1000, c'est-à-dire le savoir qu'on a en 1976 sur l'année moins 1000. La dimension sédimentaire du temps n'est pas une dimension du temps, mais du savoir portant sur une portion du temps. Latour fait en quelque sorte ce qu'on appelle en philosophie analytique une catégorie « mistake ». En prétendant que de nouvelles descriptions d'un événement établi à des moments ultérieurs viennent modifier l'année où cet événement est survenu. Et cette erreur catégorielle l'amène incorrectement à doter le temps d'une dimension dite sédimentaire. Encore une fois, j'insiste, je l'ai répété à quelques reprises intentionnellement, ce que modifie ces descriptions, c'est notre connaissance de l'événement, pas l'année de son apparition. En confondant, comme il le fait, connaissance et temporalité, Latour se trouve à effectuer un télescopage encore plus fondamental, à mon avis, entre épistémologie et ontologie. Et là, vous êtes à même de voir le sens du titre de mon intervention. Entre la connaissance de ce qui est, de ce qui se passe, et ce qui est, ce qui se passe. Pour Latour, en fait, il n'y a pas en tant que tel de pharaon mort en l'an moins 1000. Comme il le dit, il y a un pharaon mort de cause inconnue en l'an moins 1000 et un pharaon mort d'une cause parfaitement connue, la tuberculose, en l'an moins 1000 de 1976. La réalité est totalement diluée dans les connaissances successives qu'on en développe. La thèse de Latour conduit à considérer que la réalité est totalement diluée dans les connaissances successives qu'on en développe. L'épistémologie vient parasiter totalement l'ontologique. En plaquant de manière impérialiste la connaissance sur le temps et le réel, Latour écrase la réalité jusqu'à n'en plus faire qu'une peau de chagrin. Il n'y a plus de réel hors la connaissance. La réalité n'a plus d'espace propre. Le savoir vient lui imposer ses propres frontières. Ce que je veux indiquer en guise de conclusion, c'est que ce parasitage de l'ontologique ou de l'ontologie par l'épistémologie introduit une contradiction par rapport au mobile, à la justification essentielle de la démarche de Latour, à savoir sa théorie sociologique, anthropologique de la science. Je veux avancer que sa caractérisation du temps se retourne contre la visée même de sa recherche et fait voler en éclats sa prétention principale. L'objectif fondamental de la nouvelle anthropologie des sciences de Latour est de ramener le savoir dans l'humain. En bonne partie avec raison, sans doute, bien qu'il peut forcer la note un peu beaucoup à cet égard, Latour considère que la science est perçue comme une activité détachée du reste de la vie. qu'elle est vue comme s'érigeant en marge, comme si elle occupait un territoire protégé des vicissitudes humaines, comme si elle procédait totalement de la rationalité, de l'abstraction, de la théorisation, indépendamment de toute considération de nature psychologique, sociologique, historique. Peut-être, incidemment, cette autonomie de la science en est-elle par ailleurs une exigence. Certains, en tout cas, la lui revendiquent. Chose certaine, c'est cette désincarnation qui, selon Latour, explique la pauvreté relative, jusqu'à lui, de l'ethnologie des sciences. Et c'est elle qu'il veut combattre. Son intention, c'est de désenclaver la science, d'en faire voir l'ancrage dans l'humain et dans le social, d'en montrer la concrétude, de dévoiler, citation, des théories, tous les vaisseaux sanguins, leur réseau, leur rhizome, leur ramification, de rendre évident que les scientifiques sont des personnages vivants, immergés dans leur laboratoire, habités par la passion, rivés à leurs instruments, pétris de savoir-faire, étroitement connectés à un milieu vaste et palpitant. Fin de la citation. Ce faisant, Latour affirme s'élever contre ce qu'il appelle le compromis moderniste, le compromis avec un C majuscule, qui, citation, a verrouillé dans des problèmes séparés des questions qui ne peuvent être résolues séparément. Ils doivent donc être affrontés tout en même temps. Question épistémologique, comment pouvons-nous connaître le monde extérieur? Question psychologique, comment un esprit peut-il maintenir un lien avec un monde extérieur? Question politique, comment pouvons-nous assurer l'ordre de la société? Question morale, comment pouvons-nous vivre une bonne vie? Toutes questions qui, selon Latour, doivent être abordées en même temps et non pas séparément. Aux yeux de Latour, ce compromis moderniste, compromis avec un C majuscule, s'est aussi matérialisé dans de fausses oppositions entre sujet et objet, entre objectivité et subjectivité, entre nature et culture, entre humanité et non-humanité, entre intérieur et extérieur, entre dehors et dedans, entre en-dessous et au-dessus, entre science et société. Fausse opposition. Je ne veux pas discuter ici véritablement de cette position holistique, à l'accent assez lyrique, à l'écuménisme marqué. Je veux plutôt m'attarder à l'attaque virulente que mène Latour de la doctrine philosophique qu'il voit comme principale maîtresse d'œuvre du compromis moderniste, l'idéalisme. Latour pourfend tous ceux qui, de Descartes à Kant jusqu'à la phénoménologie contemporaine, adhèrent à la distinction radicale entre les choses en soi, inatteignables, et le sujet placé face à ces choses en soi. C'est vraiment l'attaque sur le plan philosophique la plus centrale qu'il mène. Il s'en prend à cette distinction portée par le courant philosophique idéaliste, cette distinction entre choses en soi inatteignables et sujet placé face à ces choses en soi. Pour présenter les choses très sommairement, l'idéalisme, c'est la thèse philosophique poussée à son extrême, suivant laquelle le sujet est la source cruciale, sinon unique, l'alpha et l'oméga de la connaissance et de la réalité. Le projet que Latour veut opposer à cet idéalisme est celui de désenclaver la science, de rendre manifeste son incarnation, de faire voir que la connaissance ne résulte pas d'une démarche du sujet face au monde des choses en soi, de la démonstration mathématique abstraite pour évoquer Descartes, du cadre transcendantal des a priori de l'esprit pour évoquer Kant, ni même de l'expérience dans le phénomène pour évoquer les phénoménologues. Encore une fois, l'objectif de sa nouvelle anthropologie est de reconnecter, il utilise abondamment le terme, ou de faire voir la connexion entre la science et tout le reste de l'humain. C'est en cela qu'il se réclame d'un anti-idéalisme au sens qui vient d'être généralement indiqué. Cependant, avec sa conception du temps, Latour retombe dans l'idéalisme et dans un idéalisme encore plus radical que celui qu'il prétend attaquer. En rabattant totalement l'épistémologique sur l'ontologique, en recouvrant totalement le réel du savoir il ne reconnaît plus aucune autonomie à la réalité par rapport à l'esprit. Il enferme toute chose dans le sujet connaissant. Lui-même bascule dans l'un des deux termes du grand compromis qu'il s'était pourtant donné pour objectif de briser. Je vous remercie.
Alors, y a-t-il des questions? Sabourin.
Oui, moi j'aurais juste une. Enfin, j'ai plusieurs questions. Une première par rapport à la notion de constructivisme. Bon, c'est une notion qu'on connaît bien, nous scientifiques, et qui est prônée par un certain nombre de mes confrères, notamment dans mon domaine, qui consiste effectivement à dire qu'un objet. J'ai reçu une question par rapport à la notion d'objet. Qu'un objet existe qu'à partir du moment où on est capable de mettre en place un processus qui peut être algorithmique et qui permet de le construire. Tu as parlé de constructivisme social. Est-ce que, alors ça je connais moins, est-ce que ça se compare avec la notion de constructivisme scientifique? Est-ce que c'est la même démarche? Quelle serait la différence entre ces deux notions? Est-ce que tu peux dire un mot sur cette notion de constructivisme social?
Oui, je peux dire un mot sur la notion de constructivisme, social, à la limite même de constructivisme non social. Je ne peux pas, très franchement, établir une comparaison très nette, très certaine, entre le constructivisme tel qu'il peut être utilisé en mathématiques. C'est à ça surtout que tu peux faire allusion. Le terme, c'est un terme du langage. Et un terme du langage peut être polysémique. Il peut être employé dans des contextes différents. C'est tout à fait le cas de constructivisme. Il y a un constructivisme en mathématiques. Il y a un constructivisme artistique, qui veut dire quelque chose de très précis. Il y a un constructivisme, le terme est aussi utilisé pour désigner un mouvement théâtral. C'est sûr qu'il y a quelque chose de commun. Tous ces constructivismes, ne serait-ce que parce qu'ils utilisent le même terme concept, ont certainement quelque chose de commun avec le constructivisme social, mais le constructivisme social, c'est quand même autre chose. Le constructivisme social a lui-même différents sens, mais l'idée essentielle est celle-ci, qui est bien exprimée par un ouvrage écrit par les sociologues Berger et Lookman, qui date déjà de 1967, dont le titre, dont la traduction française, bon, c'était une bonne traduction, une traduction qui rendait bien compte du titre anglais, « La construction sociale de la réalité ». Qui donne à penser que la totalité de la réalité est construite. Hein, quand on dit construction sociale de réalité, on donne à penser que c'est la totalité de la réalité qui est construite. Un certain nombre d'auteurs, très certainement que Latour peut être considéré, même s'il s'en défend comme un constructivisme, un certain nombre d'auteurs prennent cette expression au pied de la lettre, la prennent au sérieux et cherchent à défendre l'idée que la totalité de la réalité est construite. Pas seulement une part de celle-ci, au sujet de laquelle il est assez évident que c'est construit. Si on voulait faire une distinction un peu rapide, un peu large, on dirait qu'il y a la réalité sociale et institutionnelle qui est manifestement toujours construite. L'argent, les gouvernements, le mariage, la conférence que je suis en train de donner est quelque chose, enfin, que j'ai donné est quelque chose de construit. Toute la réalité sociale est construite. Certains soutiennent que il faut dire la même chose de toute réalité, et qu'il n'existe pas de réalité indépendante des représentations que peuvent s'en construire précisément les êtres humains. C'est ce que j'appelle constructivisme. Quand on utilise relativement aux sciences sociales ou humaines sérieusement le terme de constructivisme, c'est à ça qu'on fait référence. Plus précisément, et on se trouve à rejoindre des éléments que j'ai développés en conclusion, le constructivisme ainsi conçu porte deux thèses ou exprime deux thèses, une thèse épistémologique et une thèse ontologique. La thèse épistémologique, c'est la connaissance ne doit rien à un supposé réel dont on ne peut pas savoir s'il existe ou non. On ne nie pas nécessairement alors dans le constructivisme épistémologique l'existence d'une réalité. On pose que la connaissance ne lui doit rien, n'est pas relative à cette réalité. Que la connaissance construit totalement un monde. Alors, cette idée-là est défendue par des philosophes, par des sociologues, par des anthropologues des sciences. Et puis, sur le plan, la thèse ontologique, c'est, qui va plus loin ou qui semble plus radicale, va jusqu'à dire n'existe pas de réalité. Non pas juste laisser la question en suspens, comme on peut le faire dans le constructivisme épistémologique, mais affirme carrément qu'il n'y a pas de réalité indépendante des représentations humaines. En gros, c'est ça le constructivisme. Il se trouve que c'est de cela dont je voudrais vous entretenir mercredi prochain à l'université.
Je continue, hein, Gilles. Cette notion de réalité, donc, en fait, si tu pars du principe de ce qu'énonce Latour par rapport au constructivisme, disons en fait que l'existence en fait, de l'objet, d'une certaine manière, de l'objet scientifique, est admise à partir du moment où le scientifique l'a construit, est-ce que ça ne voudrait pas dire, selon lui, que la réalité, c'est ce qu'on voit, finalement ? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la réalité, c'est ce qu'on voit par rapport à la réalité ? Est-ce que la réalité, c'est ce qu'on voit uniquement ? Ou est-ce qu'il y en a une autre ? Enfin, pour moi, c'est clair qu'il y en a une autre. Mais est-ce que ce n'est pas la déduction de ce que dit Latour ?
Je ne sais pas. J'ai cherché à... Au tout début, j'ai dit sans doute qu'il y a des gens qui peuvent connaître la pensée de Bernard Latour, mais de Bruno Latour, mais j'ai tenu pour acquis que ce n'était pas le cas de tout le monde, d'où, si vous voulez, l'orientation générale que j'ai donnée à l'exposé. Je n'ai pas juste seulement voulu le critiquer, mais tout autant en rendre compte, enfin, pour voir comment se positionnait ma critique par rapport à cela, en cherchant à le faire le plus honnêtement possible. Et honnêtement, relativement à cette question, je ne pourrais pas répondre au nom de Latour. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Vous avez pu constater à travers certaines des citations ou certains des éléments que j'ai cherché à mettre en évidence que sa pensée est près du paradoxe très souvent. Il donne l'impression de se promener sur un précipice ou d'un précipice. Les objets, nous dit-il, par exemple, relativement à ça, sont réels parce qu'ils sont construits. Alors, on pourrait être porté à penser que quand il les assimile à des objets techniques ou matériels, qu'effectivement, il n'y a de réalité que de réalité construite, et concernant quand on les a construits, on les voit. Mais je ne pourrais pas répondre véritablement à sa place. Je me rends compte moi-même que l'exposé est assez un peu platement didactique. Je ne suis pas trop habitué, même d'ailleurs, mais je vous avais vu que je prenais bien soin de suivre mon papier. Y a la première raison, c'est celle que j'ai indiquée. J'étais pas sûr que l'auditoire avait une connaissance de Latour pas suffisante, mais appropriée pour. Et l'autre raison, c'est que pour moi, lire Latour, comprendre Latour, c'est une entreprise difficile. C'est pas aisé. Et quand on pense en avoir saisi un peu le corps, on se dépêche d'écrire la note et on se fie pas trop à sa mémoire. On veut vraiment dire les choses comme on a pensé qu'ils étaient pour lui. C'est un esprit manifestement brillant. À mon avis, il a tort à peu près sur tout, mais ça n'empêche pas d'être brillant. Ce ne serait pas le premier intellectuel ou le premier philosophe français qui serait de cette nature. Pardonnez-moi.
Est-ce que vous l'avez rencontré, monsieur?
Non, jamais.
On l'avait invité ici et en fait, au dernier moment, il n'a pas pu venir, il était parti au Japon. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui, même dans la communauté des historiens des sciences, est très marginalisé. Parce que je me demande s'il n'est pas en quelque sorte en avance quand même sur son temps. Et je me demande s'il n'a pas aussi... s'il est représentatif de la pensée de la science française.
De la science ?
Française. Je ne crois pas.
De la science oui. Anthropologique ?
De la pensée scientifique française. Je ne suis pas sûre que les scientifiques se retrouvent en Bruno Latour. De toute façon, les scientifiques, déjà, ne font pas de sociologie des sciences.
Oui, voilà. Hein,
voilà.
C'est ça.
Les philosophes en font, les historiens en font. Il y a quand même des clivages disciplinaires qui font que Latour peut quand même aussi fédérer, comme disait M. Sabourin avec ses questions, fédérer aussi certainement des différentes approches. Mais il est possible que approche de Latour pourrait correspondre à une discipline. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est pour ça que je disais qu'il pouvait en avance sur son temps, parce que justement il a une pensée qui est tellement, tellement complexe que cette complexité, cette diversité fait aussi que chaque discipline peut y retrouver, d'où le fait, vous avez raison de dire que c'est vraiment quelqu'un de très brillant. Mais il y a quelque chose qui est plutôt aussi concret dans ce qu'il fait, parce que Bruno Latour, il fait des expositions qui correspondent à son fonctionnement de pensée. Vous imaginez quand même. Là, je trouve ça assez fabuleux. Il a fait des expositions en Allemagne, mais par contre, je ne sais pas. Je sais que dans la communauté, il est considéré comme étant celui qui a peut-être introduit la science externaliste. Ça veut dire qu'on dit, voilà, il y a la science qui se fait, et moi, je suis la personne qui va penser la science de l'extérieur. Bon, on parlait de Pasteur, parce que moi, je connais des gens qui ont travaillé sur Pasteur. Dominique Lecourt, c'est enregistré. Mais Lecourt, il dit qu'il avait d'articles dans Le Monde, d'ailleurs, sur la controverse entre Dominique Lecourt et puis Bruno Latour sur la manière de voir Pasteur. Mais ce qui est intéressant, je voudrais savoir, excusez-moi de prendre la parole, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une continuité de sa pensée, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'en faisant un arrêt sur image maintenant, on peut considérer que Latour sera compris par tous les étudiants du 22e siècle? J'en sais rien, moi. Enfin, voilà.
Moi non plus, évidemment.
C'est un penseur scientifique, quand même.
Mais j'ai une idée là-dessus, mais mais il faut la prendre pour ce qu'elle est. Elle vaut celle de tout un chacun ici. Je serais assez d'accord avec vous, le peu que je peux en savoir. Je ne pense pas qu'il soit très représentatif parmi les sociologues ou même les anthropologues des sciences. Et il doit certainement être un peu à part. Maintenant, moi, ce que je pense profondément, c'est qu'il arrive quelquefois que ce n'est pas très bon qu'on soit trop brillant. Parce qu'on peut avoir des idées qui, exprimées dans des expressions fulgurantes, apparaissent intelligentes et dont on s'aperçoit à terme qu'elles ne l'étaient pas autant qu'elles pouvaient apparaître. Et pour répondre à votre dernière question, je pense que Bruno Latour va passer aux oubliettes de l'histoire et qu'en 25 ans, on ne parle plus de Bruno Latour, parce que, de mon point de vue, du point de vue strictement dans ses considérations philosophiques, je dois me montrer prudent, il a fait des descriptions de la vie de laboratoire. C'est très bien. Mais les implications philosophiques qu'il en tire, toutes les, à mon avis, ça ne tient pas la route. Contrairement, par exemple, à quelqu'un comme Michel Foucault.
Merci pour nous. Hein. Michel Foucault est de Poitiers. Enfin,
oui, c'est vrai, tout à fait.
Non, mais vous avez raison. Michel Foucault, on en parle. En effet, on cite plus Michel Foucault ici. On l'a encore cité ce soir, d'ailleurs, à la conférence d'avant, qu'on cite Bruno Latour.
Peut-être. Voilà. Mais écoutez... Moi, je me suis intéressé à Bruno Latour, pas parce que je m'intéressais, il faut le dire franchement, à l'anthropologie des sciences. Je suis arrivé à m'intéresser à Bruno Latour parce que, de bout en bout, on disait que c'était un constructiviste ou on le présentait comme tel. Mon interrogation première, origine d'un intérêt, si vous voulez, au sujet du constructivisme, c'est d'un point de vue tout à fait philosophique. Alors, il est relativement à ça un peu périphérique, parce qu'il fait d'abord de l'anthropologie. Et puis, j'ai été longtemps avant d'y arriver ou de m'y intéresser, parce qu'il y en avait d'autres sur le plan philosophique qui sont plus manifestement philosophes. Alors, c'est strictement sur ce point de vue-là ou dans cette perspective-là que je l'aborde.
Et il enseigne quand même dans les sciences dures. Il est enseignant au Pont des Chaussées.
Non, il n'est plus.
Il n'est plus au Pont.
Non.
Il est plus au Pont.
À la Sciences Po. Oui. Donc, il serait sur le point de devenir directeur.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Et pour finir, avant de passer la parole à M. Bertrand, pour finir, je voulais vous demander si vous... Bien sûr, vous connaissez Hacking, Jan Hacking.
Oui.
Voilà. Donc, je pense que là aussi, on peut parler de construction sociale. Alors, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais la différence entre Latour et lui, quelle est-elle?
Ouf. Ça peut faire l'objet d'une thèse de doctorat.
Non, parce que je savais que...
Je pense qu'Hacking, il s'efforce de mettre en évidence, en fait, de délimiter, ou je dirais d'abord de bien comprendre les différents sens qu'on peut apporter à l'expression construction sociale et même à constructivisme. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dire par construction sociale? Et il fait la démonstration que l'expression est souvent employée de manière trop métaphorique et trop imagée et qu'elle ne convient pas à certains usages. Il fait un bon ménage là-dedans. Et il met aussi en évidence, parce qu'évidemment, comme toujours, il faut faire attention pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut être anti-constructiviste et admettre la construction, évidemment. Ou pour le dire à l'inverse, admettre la construction n'implique pas qu'on soit constructiviste. Et plus que ça, non seulement on peut admettre la construction, mais on peut admettre qu'il soit intéressant de travailler sur comment se constitue la construction. Hein? Les constructivistes, à mon avis, les vrais constructivistes, les plus radicaux, empêche de bien comprendre le processus de construction parce qu'ils vont trop loin.
Alors moi, je voulais juste poser la question de l'existence ou non d'un lien entre les thèses de Bruno Latour, enfin le constructivisme en général, et la sphère du politique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des implications politiques derrière ce genre de thèse ? Politique au sens classique du terme, gauche, droite, est-ce qu'il y a des affiliations directes, ou est-ce qu'au contraire, il y a une indépendance totale entre les deux sphères ?
Pour les idées en tant que telles, à mon avis, il n'y a pas d'incidence. Mais je sais bien que Bruno Latour, quand il défend ses thèses, se situe davantage à gauche. Et même, on pourrait dire, à gauche, et là, c'est un peu difficile à se situer, mais c'est un peu anarchique. C'est un peu de l'anarchisme, sa position philosophique, j'allais dire. C'est la rue, comme il le dit lui-même. Bon. Maintenant, ça, c'est les implications que lui tire de ses propres idées. Moi, personnellement, je ne vois pas trop le lien, même si lui les affirme. D'accord. Et ce n'est pas parce qu'on affirme qu'il y a un lien que fatalement, il y en a entre une affirmation dans un secteur donné et le politique. Mais comme d'autres chercheurs ou penseurs ou intellectuels français, il est assez prompt à intégrer une dimension politique à quelque chose qui, au point de départ, se voulait strictement scientifique. Et à cet égard-là, si je le compare à Foucault une autre fois, je trouve que c'est moins bien réussi que l'intégration de la dimension politique faite par votre Michel Foucault.
Il est quand même intervenu sur le principe de précaution. Il a plein de théories là-dessus. Bruno Latour avait fait un article dans le journal. Donc il se situe en deux. Parce que vous avez parlé de sciences et société, ça m'a intéressé. De sciences et société. Et donc vous l'avez, comment dirais-je, défini comme Latour le définirait. Alors que dans notre centre de culture scientifique. On met maintenant en place, et aussi grâce à la faculté des sciences, des thématiques de sciences et sociétés. Mmh. Et les thématiques de sciences et sociétés, il faut les poser. Donc, il faut aussi qu'il y ait des penseurs qui y pensent. Que les scientifiques les pensent, c'est une chose, mais il y a aussi des théoriciens de sciences et sociétés. Il y a des gens qui sont spécialisés dans. Vous aussi, monsieur, vous êtes spécialiste de sciences et sociétés.
Non.
Non.
Absolument pas.
Non.
Non, et c'est pas moi. J'ai...
Et que pensez-vous de cette terminologie alors?
J'ai pas voulu moi-même poser quelques rapports en sciences et sociétés. J'ai tenté de rendre compte ici de ce que Latour pouvait poser. Personnellement, j'avancerai pas le début du bout du petit doigt sur cette question, parce que je trouve que c'est une question qui est miné dans le contexte intellectuel contemporain dès le point de départ, ce qui n'empêche pas de le faire ou de tenter de le faire. Mais personnellement, moi, je ne suis pas suffisamment bien équipé pour faire ça. Alors, je ne le ferai pas. Non, pas du tout. Je pense que, par rapport à la science, bon, enfin, si quelqu'un veut poser une question, j'aurais une autre remarque à faire, mais on peut... Je pense qu'il y a quelque chose chez Latour qui est symptôme... C'est pas la trouvaille du siècle que je vais vous exprimer ici, mais qui est symptôme d'une attitude généralisée relativement à la science. Hein? On sent bien que le point de départ, que d'emblée, Latour est, je dirais pas anti-scientifique, mais d'emblée, avant même de considérer comment fonctionne la science, il a à l'égard de la science un certain nombre de préjugés. Il part du point de vue, de l'a priori, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien là, et que donc il faut tenter de comprendre ce qui ne marche pas bien et comment ça se fait que ça ne marche pas bien. Bon, alors ça, c'est au moins symptôme d'un malaise qui, moi, ne m'amène pas à considérer ce malaise-là que la responsabilité ou le tort ou l'erreur est du côté des scientifiques. C'est sûr qu'on peut dire des scientifiques qui restent enfermés dans leur tour d'ivoire, qui n'ont pas toujours le souci de s'occuper de la relation avec société ou même de communiquer. Peut-être que d'une certaine façon, enfin j'ai tenté de le suggérer, peut-être que c'est requis par la science elle-même. Mais je pense aussi que la société a une attitude qui est tout à fait paradoxale par rapport à la science. Je veux dire, après tout, une société est construite par les résultats scientifiques et en même temps se permet de critiquer assez vertement la science. Il y a quelque chose là qui est un problème que moi j'aimerais creuser. Si j'avais à creuser la relation science-société, ça serait de ce côté-là, du point de vue de la société. Comment ça se fait qu'on peut, en société, développer ce paradoxe, une sorte de double bind complet, tout à fait double bind par rapport à la science. On profite, on vit, on agit, tout est organisé, je veux dire, en fonction de la science, et je ne veux dire pas seulement des résultats sur le plan technologique, le mode de pensée est ça, mais en même temps, il y a une critique acerbe, pas toujours fondée de l'entreprise scientifique telle qu'elle est menée.
Monsieur le doyen, vous avez une réponse à... Non?
Justement, par rapport à ce problème science-société, est-ce que parfois, parce que bon, je pense que bien souvent, un scientifique, c'est vrai qu'il est accusé d'avoir construit sa tour d'ivoire, de vivre trop dans son monde à lui, et peut-être c'est ce problème de la société qui, d'une certaine manière, voudrait profiter de la science, mais aussi s'approprier les scientifiques, et que la société, souvent, pense qu'elle n'arrive pas à se les approprier, c'est-à-dire qu'elle pense que les scientifiques sont un peu en dehors de la société. Parce que justement, ils se sont construits un mur.
Ah oui.
Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que des fois, je pense, moi, que le scientifique a besoin de ce mur.
C'est ce que je voulais
suggérer. Le problème, c'est que des fois, il serait nécessaire qu'il ouvre davantage la porte du mur, ce qu'il ne fait pas toujours, mais il a besoin de ce mur. À un moment donné, pour produire de la science, je pense qu'il a besoin de s'extraire. Et c'est peut-être cette dualité, qui passe mal entre une société qui n'accepte pas ce mur et un scientifique qui n'accepte pas d'en sortir. Mais je pense que le problème, il est un petit peu là. Enfin, il me semble.
Une remarque par rapport à ça, parce que, en tout cas chez nous, mais je pense que ça peut être aussi le cas, peut-être moins, mais chez nous, il faut généraliser ce que j'ai indiqué, sur lequel tu as renchéri, il faut généraliser la totalité des intellectuels, et pas juste aux scientifiques entendus au sens strict. Si bien que chez nous, l'intellectuel, on sollicite de lui, et comme s'il avait une compétence particulière en la matière, de s'engager socialement sur à peu près tous les sujets. Et on fait reproche de la tour d'ivoire. Moi, j'en suis rendu à revendiquer la tour d'ivoire. Je veux rester dans ma tour d'ivoire, et je pense que la vraie utilité que peut avoir un scientifique ou un intellectuel, c'est de faire ce qu'il a à faire dans sa tour d'ivoire, et pas d'aller s'épivarder dans la société à la télévision, hein, pour le dire comme ça. Karl Marx a changé le monde pendant un certain temps, pas par le manifeste du Parti communiste, par le Capital. Et il s'est enfermé en bibliothèque pour, pendant un certain nombre de mois et d'années, pondre ce truc qu'on ne lit plus, mais qui est tout à fait théorique, complètement théorique, et qui se voulait scientifique. C'est comme ça qu'il a changé le monde, Karl Marx. C'est pas parce qu'il a agité, il s'est agité ou il a fait de l'agitation politique, hein, le manifeste du Parti communiste. S'il n'y avait eu que le manifeste du Parti communiste, on n'aurait pas eu le 20e siècle qu'on a eu. Il fallait le Capital. Mais ça, c'est ma position toute personnelle. Je ne veux pas, évidemment, l'imposer à personne.
Juste pour finir le débat, est-ce que tu ne crois pas quand même, bon, je comprends bien cette notion que le scientifique a, cette notion de mur du trou d'ivoire qu'il faut la garder, la conserver précieusement, mais est-ce que d'une certaine manière, est-ce que pour que la science ait un sens, est-ce qu'il ne faut pas que la science soit diffusée, et que pour qu'elle soit diffusée, il faut aussi que le scientifique accepte de le faire, donc de sortir un petit peu de temps en temps de sa tour d'ivoire, est-ce que ce n'est pas important? Est-ce que ce n'est pas donner du sens à son propre travail, à sa propre réflexion, que de pouvoir à un moment donné faire de la diffusion? Et je parle à l'espace Mendès France.
C'est l'appel de la diffusion culture scientifique, mettre la science en culture, comme dit Lévi Leblond.
Je ne suis pas du tout contre ces initiatives. De toute façon, je suis dans un endroit où je ne peux pas me permettre de répondre dans un sens où je ne veux pas nécessairement répondre, mais qui serait trop provocateur. Où sont les mitraillettes? oui, sans doute, c'est de plus en plus vrai. Et probablement qu'il y a à cela une raison qui relève de l'émergence de la communication, hein, de l'explosion de la communication, comme l'ont appelé d'un de mes collègues, pour reprendre le titre d'un de leurs ouvrages. C'était moins le cas certainement avant. Hein? Quand on regarde l'histoire, on ne se préoccupe pas trop de ce rayonnement des scientifiques. On ne se souvient pas de Pasteur en raison de son rayonnement. Mais je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, tu t'es exprimé de façon que j'endosserais, te dis un peu. Mais oui, évidemment. Et il ne faudrait pas qu'on me...
Non, parce qu'en plus, vous le faites, alors. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire.
Oui, c'est vrai.
Mais par contre, ce que vous disiez par rapport à la Tour d'Ivoire, c'est valable aussi, je pense, pour les autres disciplines, pour les sciences humaines. Je pense que la pensée, comment il y a construction de la pensée, il y a peut-être le besoin, en effet, de se mettre en retrait. Vous Absolument. Dites que la production scientifique doit se faire en retrait.
Oui, oui.
Il n'y a pas que la production scientifique. Vous voyez, scientifique au sens large, aussi pour les sciences humaines.
Ah, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est un des problèmes à l'heure actuelle de beaucoup de secteurs des sciences humaines et sociales de ne pas trop se mettre en retrait. Je pense que là, on est passé à complètement... On est basculé. On en fait trop, à mon avis.
C'est un problème politique, non? Parce que les sciences humaines sont obligées peut-être aussi de justifier leur existence.
Oui, il y a certainement une dimension, mais je pense que c'est surtout... Il ne faut pas généraliser. Je parle plus de la situation que je connais chez moi. Pour moi, je dirais que c'est davantage un problème psychologique. Les chercheurs en sciences humaines et sociales se sentent socialement, non chez nous, tellement dévalorisés qu'ils saisissent toutes les occasions pour aller se valoriser dans l'espace public. Et ça conduit à une... Mais c'est chez nous et c'est bon.
Monsieur, vous voulez dire un mot, monsieur le doyen, pour clore, non? Merci beaucoup, monsieur, c'était un plaisir de vous écouter. Je suis désolée qu'il n'y ait pas plus de monde, mais c'est enregistré, donc tout le monde pourra l'entendre. Merci beaucoup, monsieur.
Merci.